und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, toi qui écoutes le 102.2 sur la bande FM ou sur RadioCanu.org, tu es bien à l'écoute de Radio Canu donc, et c'est la causerie à partir de 22h et quelques petites brouettes. Et ce soir, à la causerie, il y a la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons aussi Fab.
Bonsoir, mais pas la technique lui.
Ah non, ça s'entendrait. voilà.
Ou pas.
C'est... On n'entendrait pas la technique.
Ok, c'est ma fête ce soir.
Alors, et ben, comme à notre habitude, hein, pour celles et ceux qui nous suivent.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Comme à notre habitude, on va vous rappeler vite fait comment nous joindre, comment nous écouter, etc., etc., avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, bah, pour nous écrire, c'est simple, hein, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Pour écouter le podcast, n'hésitez pas, c'est sur le blog de l'émission, c'est à blogs, donc avec un S, blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou dans votre petit moteur de recherche, vous tapez La Causerie Radio Canu, et normalement vous tomberez sur nous. Il n'y en a qu'une, de Causerie Canu.
Dans les agrégeurs de podcasts aussi, il paraît qu'il faut dire ça comme ça.
Tout à fait, dans les podos, je ne sais plus comment on appelle ça là, les podos.
Pour la balado-diffusion.
Balado-diffusion. Sur le gars qui n'est pas du tout à la page. Et j'invite aussi, si vous avez des commentaires ou autre affaire, ne les faites pas. Enfin, vous ne pourrez pas les faire sur le blog, mais n'hésitez pas. On le répète aussi très régulièrement, mais n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que c'est constructif, ça peut tout être entendable. Et c'est toujours à l'adresse mail que ça sera mieux, parce que pour l'instant, les blogs, on n'a toujours pas de commentaires suite à une attaque de fou sur certains blogs.
Ouais,
donc, voilà.
Et on est aussi sur un truc socio-commercial. Voilà. Et bon, pardon, je viens de voir ce soir qu'il y avait un groupe qui nous avait écrit, alors on va répondre, mais on est à la bourre parce que vous vouliez passer ce soir, mais c'est pas possible. Voilà, et oui, sur notre Messenger, tout ça, voilà. Et je l'avais pas vu, donc non, passez pas par là non plus. Non. lacauseriecanu@gmail.com, quand vous voulez nous joindre, c'est le plus simple.
C'est beaucoup plus simple, effectivement. Maintenant, ces rappels sont faits, et ben c'est Fab qui ouvre le bal.
Oui, avec
voulez-vous
un...
Voulez-vous danser? Enfin bref, et tu vas nous parler sociologie en lien...
Non, mais... on va faire un édito un peu, plutôt. On va
sociologie,
dire ça comme ça.
Sans grand mot. Hein, oui. Nous ne sommes pas diplômés d'une école de sociologie, mais nous pouvons quand même en parler, et c'est lié au premier tour de l'élection qui a eu lieu la semaine passée.
Ouais, l'élection pestilentielle, enfin présidentielle, tout ça.
C'est ça.
Alors, depuis une semaine, j'entends beaucoup, c'est la faute à... Voilà. Alors, depuis le premier tour, hein, c'est la foire d'empoigne à gauche et l'euphorie à l'extrême droite, hein, on aura bien compris. Et que c'est la faute de ceux qui n'ont pas voté, et que c'est la faute de ceux qui n'ont pas voté Mélenchon, et que c'est la faute de ceux qui ont choisi d'autres candidats que les trois désignés comme un vote utile, ou évident, ou incontournable, mettez le mot que vous voulez. Bref...
Non, pardon, ouais. Je me permets, mais je trouve qu'on a quand même eu des réactions à la gauche qui sont quand même assez ouf. Et pourtant, enfin, oui, je veux dire, je suis pas du tout un électeur, hein, ni un votant de quoi que ce soit. Mais c'est, enfin, il y a quand même des, il y a des locaux genre du PCF, etc. Et pourtant, je suis de loin pas un communiste, mais enfin, qui ont été attaqués potentiellement par des soutiens de la LFI, enfin de la France Insoumise.
On a du grand n'importe quoi.
C'est, ouais, là, c'est vraiment, tu dis là, enfin, on perd les pédales quand même, et la raison quoi.
Alors bref, comme à chaque élection, moi qui suis un abstentionniste actif, hein, je vous renverrai une émission qui a été faite sur les ondes de Radio Canu. Moi j'observe ça d'un œil un peu amusé, j'avoue. Alors amusé mais aussi inquiet, hein, parce que je vais quand même pas vous dire que l'arrivée de Le Pen au second tour et potentiellement comme présidente de la République me réjouisse, hein, loin de là. Non. J'aurais plutôt tendance à me dire que c'est révélateur en réalité de l'horreur qui est devenu ce pays, tout simplement, qui se replie sur lui, ses traditions, son roman national, enfin tous ces trucs un peu rances. Oui. Tout comme le fait que le président Macron, un antisocial, libéral économique, très napoléonien dans sa stature, dans sa façon de gouverner depuis 5 ans, bah arrive quand même en tête avec quasiment je sais plus, je crois 27% des voix. Ça a quand même de quoi interroger. Enfin, faut pas non plus se mettre ça sous le tapis, c'est quand même, parce que je rappelle qu'il y a eu 74% de votants. Parce qu'on oui. dit beaucoup, il y a 26% de gens qui sont pas allés voter. Ouais, mais il y a 74% des inscrits et inscrites qui sont allés voter. C'est pas une élection légère, ça fait beaucoup de monde qui s'est déplacé. Donc voilà, on a donc à la tête de cette élection arrivé Emmanuel Macron. Donc c'est très surprenant quand même. Mais comme on le dit, en fait, c'est le jeu de la démocratie, entre guillemets, ou plutôt de la République française et de son élection d'un roi président ou d'une reine présidente. Hein. C'est comme ça que ça marche chez nous. Hein, voilà. Mais ce qui m'a le plus étonné, hein, c'est le nombre de choses fausses et profondément dérangeantes que j'ai pu lire sur les sites dits alternatifs et autres réseaux anarchistes ou d'extrême gauche. Alors la palme pour moi, elle revient à Nantes révolté, hein, quand même, je le dis, qui s'il ne mérite pas une dissolution et hein, que nous soutenons sans ambiguïté contre l'État qui s'en prend à eux, il n'y a aucun problème, devrait sans doute apprendre à prendre un tout petit peu de recul quand l'extrême droite arrive au second tour de l'élection présidentielle. Dans un article daté du lendemain du premier tour, et là aussi, il faut éviter d'écrire trop vite, c'est ce qu'on dit en général, il n'en appelait pas moins qu'au retrait du droit de vote, pas de droit de vote, mais de droit de vote, aux plus âgés, voire en filigrane à leur élimination après un certain âge. Alors ça, oui, on peut se dire que c'est un coup de colère, que c'était peut-être de l'humour mal placé, sauf que quand on lit l'article, et ben, en fait, on a un peu vraiment l'impression que pour eux, clairement, c'est la faute des vieux. Bah, sauf que pourtant, c'est pas du tout justifié. Voilà où est la petite touche de sociologie ce soir. Alors, selon plusieurs études menées, hein, qu'elles soient par des instituts de sondage, mais aussi par des questionnements de labos de sociologie, hein, parce que ça a été assez large, une chose est certaine, si Marine Le Pen est au second tour, ce n'est pas grâce au vote des plus de 60 ans. Voilà, pardon de le dire comme ça, mais c'est un fait. D'ailleurs, au-delà de... C'est juste quelqu'un qui a claqué une porte, détends-toi. D'ailleurs, au-delà de 70 ans, s'ils ont voté majoritairement pour Macron, hein, réellement, c'est bien la population de France qui a le moins voté pour Le Pen. Voilà. De toutes les populations confondues. Hein. Et ce, comme le disait dans une émission de radio que j'écoutais, un sociologue dont j'ai paumé le nom, il me pardonnera, mais si il m'entend, il a le droit de m'écrire pour dire « tu m'as piqué ma phrase ». Peut-être parce que ont un souvenir plus prégnant de ce qu'est le fascisme pour l'avoir vécu ou avoir eu des parents qui l'ont vécu de plein fouet. C'est sûrement lié à ça et effectivement, ça se tient.
Très certainement.
Parce que oui, si on observe clairement la sociologie des votants, on peut noter que l'extrême droite est profondément ancrée dans toutes les couches de la société. C'est pas propre aux plus vieux, c'est pas propre aux plus jeunes. Si les plus jeunes ont voté majoritairement pour Mélenchon, il faut faire toujours attention à cette notion de majoritairement pour. Ça veut pas dire grand chose, hein, majoritairement pour. C'est en fait en votant moins pour Macron. En réalité, c'est un transfert de voix qu'on a. Mais au final, Le Pen fait un score qui est quasi équivalent chez les électeurs de 18 à 60 ans, c'est-à-dire autour de 21, alors c'est 21,3, donc on va arrondir, 21, et 25%. Donc en fait, en réalité, l'extrême droite est implantée chez un quart des électeurs et électrices, et là je parle uniquement du vote Le Pen, hein, donc chez les électeurs et les électrices, entre 18 et 60 ans. Et c'est sans doute cela, hein, qu'on devrait prendre en compte, le fait qu'aujourd'hui, plus grand monde ne semble emmerder le Front National comme le chantaient les Berruriers Noirs. C'est peut-être ça qui devrait nous interpeller plutôt que de chercher la faute à qui c'est et puis si c'est les vieux, les machins, voilà. Et pire que cela, on peut observer que chez les 18-30 ans, hein, je remets bien la fourchette, si on additionne les voix de l'extrême droite, c'est-à-dire Le Pen, Zemmour, Lassalle et Dupont-Aignan, oui, parce que Monsieur Lassalle est d'extrême droite, hein, faudrait peut-être qu'on arrête, c'est pas parce qu'il est sympathique que c'est un mec cool. Si vous regardez son programme, ses positions et ses idées, c'est une personne qui est clairement classée à l'extrême droite. On arrive à plus de 32% de votes pour l'extrême droite, soit un électeur sur trois.
Dans, la tranche, 18,
dans la tranche 18-30 ans.
Donc 18-30. Ah oui, 18-30 ans. Ouais.
C'est-à-dire chez les plus jeunes. Parce ouais. que moi, j'entends plein de gens me dire « Ah, mais les plus jeunes, ils ont voté majoritairement Mélenchon. » Alors, peut-être, mais l'addition des voix d'extrême droite, chez eux, c'est 32%. Donc, oui, il y a un vote Mélenchon qui est autour de 25%, mais qui reste inférieur au vote accumulé de l'extrême droite. Pardon de vous le dire et pardon de briser quelques illusions, peut-être, mais c'est comme ça. Et à plus de 38%, hein, cette addition de l'extrême droite, chez les 30-60 ans. Voilà, alors je ne sais pas quel âge vous avez de l'autre côté du poste, mais je pense qu'à 30 ans, vous vous sentez encore jeune, et puis pourtant, dans votre tranche d'âge, il y a 38% des gens qui ont voté à l'extrême droite, des votants, hein, qui se sont déplacés. Alors autant le dire, hein, c'est bien les vieux hein, finalement qui ont fait baisser le score de l'extrême droite avec un cumul ne dépassant pas les 21% pour toutes ses forces. Voilà, c'était juste pour replacer un petit peu tout ça. Arrêtez de croire qu'à chaque fois que la réaction arrive, elle vient des vieux,
oui.
parce que c'est pas toujours vrai, et en l'occurrence, c'est pas vrai.
Enfin, pardon, je peut-être que tu le
même si je mets pas Macron comme étant un mec d'extrême gauche, hein, on va pas non plus déconner. mais ce que je veux dire, c'est que le vote réellement fasciste, le vote réellement pour des candidats d'extrême droite, et ben en fait, il est beaucoup moins exprimé. Alors après, je sais, il y a la galipette facile de tout gauchiste qui se respecte de dire que la politique de Macron, elle est aussi d'extrême droite. Oui, comme ça, on est tranquille, on a toujours raison. Sauf que dans les faits, on sait que même quand on dit ça, on se fait plaisir parce que c'est pas vrai. Et que même si la politique de Macron se combat et qu'elle est violente et qu'elle est horizontale, il n'y a pas de souci. Mais on sait très bien que ce n'est pas la même chose et qu'à un moment donné, on devrait plutôt s'inquiéter de la réalité plutôt que d'en se créer une alternative qui nous va bien. Voilà.
Et peut-être que tu le diras après, mais c'est aussi... Enfin, c'est aussi tous ces grands ensembles qu'on fait, quoi. C'est-à-dire,
oui,
c'est les vieux, c'est aussi valable que c'est les jeunes. En fait, enfin, je sais pas.
C'est
dans
multiple
quel...
une
je
une
sais
population.
C'est ça, en fait. C'est je sais pas dans quel environnement vous avez la chance d'évoluer, mais il semblerait que vous évoluez dans un milieu très, très, très pur,
homogène, surtout.
Très homogène, hein, avec que des gens qui vous ressemblent. Tant mieux pour vous, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que ça vous coupe un peu de ce qu'est la réalité. Mais en fait, enfin, des jeunes, il y en a autant qu'il y a de jeunes, en fait, quoi.
C'est ça, tout
c'est-à-dire
à fait.
C'est-à-dire que.
Mais moi, alors, ce qui m'interroge quand même, pourquoi je parlais des jeunes, c'est parce qu'en fait, en réalité, le vote d'extrême droite a extrêmement augmenté chez les jeunes. Et ça, c'est vrai, par contre. Mmh. C'est-à-dire que ces 30 dernières années, ou ces 20 dernières années, on a une flambée du vote d'extrême droite dans la jeunesse. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les Berus, ils chantaient « La jeunesse emmerde le Front National », c'était vrai. Parce que la majorité écrasante des jeunes emmerdait le Front National, c'était une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les Berus pourraient plus vraiment chanter cette chanson en disant « Voilà ». Vous voyez, c'est un peu ça qui, moi, m'a interpellé. C'est une réalité,
ah
quand
oui,
même.
Oui, mais...
Alors, à quoi ça sert, justement, de poser ça? Eh ben, en fait, ça sert à arrêter de s'illusionner, en fait, hein, et à revenir à ce qui devrait nous interpeller. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que c'est ça la question. Parce que oui, l'extrême droite est aujourd'hui profondément implantée dans les classes populaires, comme dans les autres strates de la société. Et c'est là que nous savons que nous sommes au bord du fascisme. C'est au moment où les classes populaires et les classes bourgeoises commencent à s'unir autour de l'idée d'une grande nation unifiée. Et qu'elle est belle. Voilà, oui, c'est un petit peu le truc... j'en ris, mais c'est
non,
parce
mais
que
oui,
j'ai
oui,
pas
le patriotisme
choix.
Partagé par le plus grand nombre et le nationalisme. Quoi.
Alors oui, on va manifester, hein, d'ailleurs, samedi, il y a eu une manif, on va montrer qu'on n'est pas content, qu'on veut ni de l'un ni de l'autre, mais ce sera un peu reculé pour mieux sauter. Et on le sait toutes et tous. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, oui, les idées d'extrême droite sont implantées dans ce pays de façon durable et malheureusement de façon prégnante. C'est-à-dire qu'on les sent dans la société, on les sent dans le regard des gens, dans leur façon d'agir, dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils lâchent maintenant, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Pareil, hein, on peut se contenter du score de la LFI, hein, de la France Insoumise.
De l'Union Populaire, s'il
ouais,
te
pardon,
plaît.
De l'Union Populaire. Enfin, bon, ils changent de nom tous les ans, hein, donc voilà. Qui n'est finalement qu'une redite, hein, de la LFI, on va arrêter de se mentir, c'est une l'Union Populaire n'est qu'une redite du mitterrandisme des années 80, hein, avec une fausse radicalité qui porte un projet profondément social-démocrate. Il suffit de le lire, hein, moi je l'ai lu, hein, donc voilà. D'ailleurs, je les ai pas payés pour le lire, c'est mal. Qui aujourd'hui, forte du score de leur candidat, hein, se pose en seule force de rassemblement d'une gauche aux abois. C'est la méthode mitterrandienne des années 80, de récupération de la gauche, d'unité de la gauche autour d'un parti unique, central et fort, qui était le Parti Socialiste à l'époque, qui aujourd'hui est donc l'Union Populaire, la France Insoumise. C'est une vieille méthode de la 5e République, ça pue bien le rance. Si des gens y voient là-dedans une once de modernité, Eh ben écoutez, c'est que vous êtes encore au Minitel et que vous avez l'impression que tout se passe bien. Je sais pas. Parce que oui, aujourd'hui, le pays, en fait, il penche à plus de 70% à droite et à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il retrouve, en fait, un rapport qu'on avait déjà dans le passé et qui nous inquiétait. C'est le rapport qu'il y avait sous De Gaulle. Alors même si sous De Gaulle, la droite était plus forte que l'extrême droite, aujourd'hui, on voit qu'on a ce rapport-là. Et c'est problématique. Et le candidat de gauche arrivé en tête, reste quand même, pour Monsieur Mélenchon, hein, protectionniste, pro-Poutine, plus ou moins, qui aime beaucoup les dictateurs d'Amérique du Sud, plus ou moins, comme il le voit, parce qu'après, il aime bien nuancer.
Qui a une légère germanophobie.
Qui a une légère germanophobie.
Un militarisme exacerbé.
Qui a un léger problème avec l'Europe, même sociale. Donc ça, c'est quand même un peu problématique, quand même, quand on est de gauche, voilà. Alors, on peut pas dire que ce soit très satisfaisant, quand même. Et n'oublions pas que l'on sait que les abstentionnistes auraient voté comme les votants. Donc, arrêtez de rêver. Il n'y a pas une vague de gauche et d'extrême gauche qui serait restée chez elle. Non, en fait, si tout le monde était allé voter, les résultats auraient été à peu de choses près les mêmes. Là aussi, plusieurs études sociologiques l'ont démontré, plusieurs études statistiques l'ont démontré, donc c'est pas la peine de continuer à s'illusionner là aussi. Ça, c'est juste pour se rassurer, qu'on se dit, mais en fait, les gens de gauche, ils sont restés à la maison. Non, non. Voilà. Alors, est-ce qu'on va baisser les bras? Est-ce qu'on va se résigner? Bon, certainement pas. Hein. Par contre, on va pas partir dans des guerres intestines et stériles, qui a fait perdre un candidat, et puis de toute façon, ce candidat, compte tenu du rapport de force, se serait explosé au second tour. On va arrêter de rêver là aussi. Ou alors, s'il avait gagné, aurait gagné avec les voix de l'extrême droite, ce qui aurait été vachement compliqué pour un candidat de gauche pour diriger, quand même, on va pas non plus se mentir. Mais aussi repenser ce qui nous unit finalement, ce qui devrait être une base minimale. Ne pas penser qu'en faisant un peu de droite et d'extrême droite, on peut séduire. Faut arrêter avec ça, ça marche pas en fait. Les frontières n'ont jamais été de gauche.
C'est que ça peut fonctionner.
Mais si on est prêt à l'accepter pour
que ça fonctionne, c'est que oui, effectivement, je te rejoins, ça doit fondamentalement et foncièrement nous interroger sur le fait qu'on se dit de gauche et on accepte bases qui ne sont pas à nous.
Donc je vais rappeler quand même des bases de ce qu'est la gauche historique. Je fais des fois un petit peu sentencieux, mais là je vais le faire. La gauche historique, elle n'aime pas les frontières. Elle les a jamais aimées. Et la preuve, c'est que cette gauche, elle chante encore l'international de temps en temps. Ce serait bien qu'au-delà de la chanter et de s'arrêter au couplet, on lise les paroles. Au refrain, pardon. On lise les paroles et vous rappeliez de ce que veut dire l'international et abolir les frontières. Aimer aussi les tribuns, oui, vous savez, les tribuns, c'est ces gens qui montent sur scène et qui vous disent hey, je suis la République, enfin moi tout ça, ça on en a pas besoin. Les États n'ont jamais été des outils centraux de la gauche, si ce n'est des gauches autoritaires, et on sait ce que dans l'histoire ce qu'ont donné les gauches autoritaires, et encore moins évidemment des anarchistes, on va peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure, et peut-être qu'il est temps qu'on revienne un peu à nos fondamentaux pour peut-être les réinventer et peut-être se réinventer avec les outils modernes d'aujourd'hui, peut-être réapprendre à faire des choses différemment, mais par contre, gardez au cœur que le fait est pour que pour nous, ni patrie ni frontière, ça a toujours été le leitmotiv de la gauche et des anars. Donc voilà, on peut se réveiller et se dire, ah tiens, c'est pas con, ça, c'est pas... voilà, donc... Oui, alors la période qui s'annonce, elle va être compliquée. La haine, elle va en poupe et nous sommes bien minoritaires, on le sait, on le ressent. Et moi, encore comme anarchiste, encore plus que les autres, je vais le dire, dans ce pays, voilà, bon, c'était là pour la boutade. Mais il faut tout reconstruire et repartir pour convaincre. Parce que le but maintenant, ça va être de convaincre, parce que voilà, c'est ça l'idée. Mais c'est pas si terrible que ça. Dans l'histoire, des moments rudes se sont déjà passés. On le sait, il y a eu des moments détestables, honteux, violents, tout ce que vous voulez. Mais si nous devions baisser les bras à chaque fois, en fait, on n'aurait jamais réussi à avancer pour les libertés individuelles et collectives. Donc voilà, à nous de nous réinventer, de nous bousculer un peu pour sortir de nos certitudes, et puis de se dire qu'il faut y aller. Et puis là, je vais juste utiliser deux phrases parce que je les ai en tête et que j'ai oublié de les noter. Ne ronchonne pas, organise-toi. Ça, c'était pour paraphraser Joe Hill. Et puis une autre, mais ça, c'est parce que j'adore Stupéflip, utopiste debout.
Voilà. Effectivement.
Tout simplement. Et on l'a vu en arrivant, donc ça m'a la remis en tête.
Non, mais oui, je vais pas refaire 10 minutes là-dessus non plus, mais oui, je pense que...
qu'on les a pas.
Non, mais c'est je pense effectivement qu'on doit se réinterroger sur nos manières de faire, de toucher les gens qui ne sont pas de nos milieux. Il y a vraiment quelque chose à reprendre, je pense, une forme. Après, j'ai pas envie de parler d'éducation populaire, mais en tout cas de retransmission,
d'aller parler aux gens, ouais. De discuter,
nous enfermer dans nos lieux.
Faut jamais oublier que la gauche à une époque, on disait que c'était le parti des bars, mais c'était pas parce que, alors les bourgeois disaient ça pour dire ils font que boire, mais en réalité c'était sous-entendu, en fait c'est dans les bars qu'on se croisait et qu'on montait en fait finalement, et c'était pas péjoratif en réalité pour nous. c'est quand on disait le bourgeois, il nous voyait comme ça, on s'en foutait parce que nous on savait ce qu'on disait dans les bars, on n'allait pas juste se bourrer la gueule, on faisait des réunions, des meetings, on discutait, on allait convaincre les copains, on disait tiens voilà, ouais, demain c'est la grève à la boîte, on y va et tout, voilà. Aujourd'hui on se voit plus, on se parle plus, on est explosé par les réseaux sociaux et leurs algorithmes, on explose ça. Donc il va falloir qu'on réinvente.
Et puis on se met sur la gueule, enfin il y a qu'à avoir une défaite à une élection, t'as des locaux d'un parti
oui,
quand
c'est
même,
ça, parce que tu disais
de
alors,
gauche, oui c'est ça, qui se fait quand même éclater par des gens de gauche. En fait il y a un vrai problème.
C'est pour ça on se pose, on respire, on arrête de râler et on s'organise.
Oui.
Vraiment. Je pense qu'il y a que... là, il faut juste se dire ça. Oui. Et c'est pas grave, c'est juste l'histoire, c'est comme ça. Et c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois.
Et juste voilà. Aussi, la transformation d'une société ne nécessite pas la course au pouvoir.
Non,
là aussi... non, mais c'est aussi des choses à réinterroger, oui. Je pense, pour toutes celles et ceux qui se disent à minima progressistes. C'est pas en prenant le pouvoir qu'on changera la donne, c'est effectivement en s'organisant, en luttant. Partout en fait, et en débattant partout en fait, et en ayant plus peur de heurter les gens parce que voilà, oh là, je dirais un truc qui pourrait heurter quelqu'un, etc. Non, en fait, c'est pas grave en fait. Enfin, le débat d'idées, c'est aussi ça en fait.
Faut pas avoir peur de la confrontation d'idées.
C'est ça, c'est exactement voilà. Ça. Bon, allez, on fait pas plus long, on se tait, on passe à la musique.
Ah, bah oui.
J'allume les bougies, ambiance sexy dans mon champ Lexis. Sous mon oeil, j'ai bien huilé les paroles. Oh my god, plan large sur le décor. Dans ma chambre de fille, je cache des trésors. Solo, j'explore, je navigue, je pars en cherche à store. 1000 degrés dans la pièce, je teste, je me presse de trouver le bon geste. En rond, je cherche. Dans mes pensées, tu me laisses, laisses, laisses. Sur ma fin, je reste, reste, reste. CX non censuré, t'es dans le synopsis. Dans mes rêves, c'est doux comme mon kiss. Oh my god, gros plan sur mon corps. Je me dessine sans contourner toutes les zones dont je trace l'origine du monde. 1000 degrés dans la pièce, je teste, je me presse de trouver le bon geste. En rond, je cherche. Dans mes pensées, tu me laisses, laisses, laisses. Sur ma fin, je reste, reste, reste. Plus que je me fais le fumeur dès que quand je glisse, la touche récupère. Que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Plus que je me fais le fumeur dès que dans ma tête, je me fais une tape. Sentir sur mes lèvres, quand t'es dans mes rêves, t'es dans mes rêves. Je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres.
Et voilà, c'était Suzanne avec Clit is good, le clitoris c'est bon. voilà, bah, je traduis parce qu'on m'a dit la loi tout bon, faut traduire. Voilà.
C'est vrai que Clit is good, on pourrait pas savoir vraiment ce que c'est.
Non mais alors,
Clit is good.
J'adore ça, c'est pour son prochain album à Suzanne, et moi j'aime beaucoup Suzanne. Et juste vous inviter à aller voir le clip. Alors il y a trois actrices, j'en ai perdu deux de nom, pardon, mais elles sont toutes connues. Mais il y a Victoria Abril dedans, et le clip est superbe. Mais vraiment, alors vraiment, il est superbe, j'ai pas d'autres mots.
Le plaisir féminin pour
toutes. Il est vraiment très beau. Voilà, donc allez le voir. Donc, et ben c'est toi Jean-Yves.
Mais tout à fait.
Et toi tu voulais nous parler de ces blasphémateurs, libre-penseurs, enfin tous ces gens si détestables.
Tous ces mécréants. Effectivement, ce soir j'ai envie de vous parler libre-pensée et de libre-penseurs parce que bon bah il faut croire que même sur les ondes rebelles, c'est un sujet dont peu parlent et dont peu aussi se soucient d'ailleurs, peut-être même moins que l'ONU en fait, c'est dire. C'est peut-être parce que c'est trop mainstream, je sais pas, trop grand public, pardon, ou trop offensant, je sais pas, enfin bref, on s'en fout, mais en tout cas ce soir on va le faire. Donc je propose de commencer par une info qui nous arrive du Nigeria et qui concerne Muhammad Mubarak Bala. Alors je préviens, ça va être un petit peu long, mais j'avais bien envie quand même de donner un peu tout le déroulé, l'historique,
ouais,
etc.
Le contexte, ouais.
Ouais, parce que enfin voilà, c'est pas juste une personne comme ça. Enfin, il y a vraiment un contexte, quoi. Donc quels sont ces crimes ? Alors je vous rassure, hein, ça a commencé bien avant 2022. Hein, ça a commencé d'ailleurs en 2014. Lorsque Muhammad Mubarak Bala en fait avait officiellement renoncé à sa religion, c'est-à-dire c'est un apostat, ce qui bah, lui a valu d'être placé, enfin enfermé, dans un service, enfin au service psychiatrique de l'hôpital universitaire d'Aminu Kano, par sa famille qui elle est très croyante pendant environ 2 semaines avant d'être libéré en fait sous la pression de groupes de défense de droits humains. Après ça, il a quitté Kano, justement, situé au nord du Nigeria, et qui est l'un des états les plus instables, hein, du pays, avant de s'installer à Abuja, qui est en fait la capitale du Nigeria, et qui se situe dans le centre du pays, et qui est plus libéral que les autres régions du nord.
Comme souvent dans les capitales.
Ce qui est souvent, ce que j'allais dire, c'est pas propre au Nigeria. Alors c'est là quand même, hein, que je peux apporter une petite précision quand même sur l'état politique du Nigeria et son rapport aux religions. Alors politiquement, c'est, on peut dire, un peu le bordel. Hein. Il y a entre autres des attaques de Boko Haram. Il y a aussi des enlèvements d'élèves, dont vous avez certainement déjà entendu. Hein. Il y a eu un moment un enlèvement de 300 élèves. Je crois que là, il en manque encore une centaine. On ne sait toujours pas où elles sont. Bon, voilà. Donc, vous voyez un peu le climat. Niveau religion, à son indépendance, en 1960, en fait, il y a eu des modifications par rapport à la constitution qu'il y avait. Alors, si laïcité n'est pas explicitement inscrit dans la constitution, en fait, il n'y a plus de religion d'État. Donc, toute personne est libre de choisir et de pratiquer ou pas la religion qui lui plaît.
C'est assez proche, en fait, de ce qui existait aux États-Unis. Parce qu'il me semble de mémoire que le Nigeria avait copié un petit peu la constitution américaine là-dessus.
Là, je ne saurais pas, je ne saurais pas dire, je vais pas m'avancer là-dessus. Sauf que, bon, bah, les tensions religieuses existent depuis longtemps aussi, et que pour accéder au pouvoir, certains politicards, c'est partout pareil, hein, n'hésite pas à faire quelques petits cadeaux à ces mêmes religieux, comme par exemple, enfin ce qui donne par exemple en fait une douzaine d'États sur 36 dans le Nigeria, bah, qui appliquent la charia en parallèle des lois laïques. Donc ce qui fait que des fois ça se percute un peu parce que une loi de l'État, on va dire, aura pas un regard d'interdiction sur certaines choses, là où des lois religieuses, elles, en auront. Donc je continue, hein. Donc Muhammad Mubarak Bala s'installe donc à Abuja, ce que je disais avant, où il est adopté en fait par la communauté athée, on va dire, hein, grosso merdo, et il devient rapidement en fait le président de l'association humaniste du Nigeria. Alors il s'est aussi marié là-bas, etc. Et en fait, lui, il avait une page Facebook sur laquelle il insultait des personnalités religieuses, dont Jésus-Christ, le prophète Mahomet, tout ça. Bon, voilà, quoi, du bon, comment dire, pour gratter un petit peu, quoi. Donc ces pages...
Un peu façon la cuisine au beurre, Charlie Hebdo et autres qui font de la caricature et de l'humour autour de tout ça, même en étant offensant, blasphémateur, quoi.
C'est un peu le principe.
Oui, c'est le principe du blasphème.
C'est le principe.
Non, mais on va pas ici dire que c'est pas bien.
Ah bah en tout cas, pas dans cette émission.
Voilà,
je parlerai pas pour tout Radio Canu.
Non, mais pour nous,
mais
quoi,
pour en nous cas. En tout cas, non, ça c'est sûr, c'est pas un problème.
Blasphème, c'est quand même un truc de base, quoi.
C'est la vie, quoi. C'est comme l'eau. Donc, ces pages étaient évidemment remplies de menaces de mort, parce que évidemment, on n'a pas le droit de critiquer les dieux. Et il a aussi été averti que s'il remettait les pieds au nord, il le paierait cher. Au nord, où il y a justement
là où il y a plus la charia,
les lois religieuses, ouais, etc.
En avril 2020, donc on avance hein, dans le temps, en avril 2020, alors que sa femme en fait venait de donner naissance à leur premier enfant, en fait, Moubarak en fait a eu vent du projet du gouvernement d'annoncer un confinement dans la capitale en raison de l'augmentation des cas de Covid-19. Et il a décidé de se rendre rapidement dans l'état de Kaduna pour un événement et promis de revenir très rapidement. Mais, lorsqu'un avocat qui lui... Alors, je vous cite plein de noms de villes, mais n'hésitez pas, vous reprenez une carte du Nigeria, c'est ce que j'ai fait même en préparant ce sujet. Donc, lorsqu'un avocat, en fait, basé lui à Kano, c'est un état à côté, et cet avocat s'appelle Salisu Umar, a obtenu des informations sur lesquelles Moubarak se trouvait justement dans l'état voisin de Kaduna, il a écrit à la police en exigeant l'arrestation de Moubarak pour avoir diffusé des commentaires contre le prophète.
Ah, c'est un avocat de Dieu.
C'est un avocat.
Dieu ne veut pas se défendre tout
non,
seul.
Non, bah Dieu est omniscient, mais il a besoin d'avocat.
Ouais.
C'est qu'il doit y avoir un truc qui cloche. Alors, et je cite hein, cet avocat qui a répondu à un journal qui s'appelle The Africa Report. J'ai écrit parce que je pensais que le comportement de Bala pouvait porter atteinte à la paix publique. Et bien qu'il se trouvait à Abuja lorsqu'il a publié ses publications sur Facebook, la loi nigérienne sur la cybercriminalité donne compétence absolue à tous les États pour poursuivre quiconque cause des problèmes sur les réseaux sociaux. Indépendamment de l'état dans lequel vous étiez. C'est une loi fédérale, dirons-nous quoi.
Ouais, mais c'est pratique du coup.
Bah oui.
Dans un pays où la moitié du pays à peu près applique applique une loi parallèle plus stricte et religieuse. C'est pratique comme loi.
Ah bah c'est sûr, ça peut aider. Hein. Alors après avoir reçu hein, donc ce courrier de ce cher avocat défenseur de Dieu, parce que Dieu ne peut pas le faire tout seul, la police de l'état de Kano a rapidement appelé à son tour l'état de Kaduna, demandant l'arrestation de Moubarak. Et sa femme, en fait, en convalescence, hein, quand le journal l'a interviewé, elle rappelait que ben, quand j'ai appris qu'il avait été transféré à Kano, j'ai commencé à craindre le pire, parce que Kano a des lois de la charia très strictes. Donc c'est pas non plus par hasard hein, que l'avocat a agi là où il était, etc. Bah,
oui,
etc.
Oui.
Hein, évidemment. Alors après avoir été amené dans l'état de Kano, Moubarak a passé des mois en détention et s'est vu refuser l'accès tant à son avocat qu'à sa compagne, ce qui a incité en même temps des militants et des militantes à exiger sa libération. Alors, dans le but hein, de légaliser sa détention, la police a d'abord déposé un rapport d'information devant un tribunal de première instance, l'accusant d'avoir enfreint le Cyber Crime Act. L'une des accusations disait cela. Infraction raciste et xénophobe, contraire à l'article 26 de la loi de 2015 sur l'interdiction de la cybercriminalité. Que vous, Moubarak Bala, avez fait en avril 2020 via une application sur Facebook caractérisant le prophète, sa religion, l'islam et ses partisans musulmans comme des terroristes et l'avez publié sur votre page Facebook nommée Moubarak Bala. Votre action aurait enfreint les articles ci-dessus et donc été traduite devant l'honorable tribunal. Alors, après des mois de détention, Moubarak Bala a été transféré en garde à vue et placé à l'isolement hein, pour qu'il ne soit pas agressé par d'autres détenus. Et son avocat, en fait, James Ibor, a par la suite déposé une plainte devant le juge de la Haute Cour fédérale d'Abuja demandant la libération immédiate de Moubarak. La requête, elle, a été accordée et le tribunal a ordonné la libération immédiate de Moubarak. Sauf que l'ordre, la décision de justice n'a jamais été respectée.
C'est un problème d'envoi.
Oui, ça doit être ça. C'est le courrier qui
non,
est
mais passé. En fait, on voit souvent dans ces affaires-là et qui concernent des libres penseurs et voilà d'abord l'exagération de la police hein, parce que on voit bien que le rapport est ultra exagéré, volontairement exagéré, et aussi les complicités de la justice de ne pas passer les actes ou les envoyer au mauvais endroit. Enfin, dans d'autres endroits du monde, on a carrément des actes qui ont été envoyés à l'autre bout du pays par erreur entre guillemets. Et voilà, et ça permet de maintenir en détention des gens juste parce qu'ils refusent de se plier à un diktat religieux. Quoi. Voilà.
Donc là, on parlait de la cour fédérale d'Abuja, mais en même temps, la police l'a traduit devant une haute cour de l'état de Kano,
qui, qui cette fois-là, a refusé la libération sous caution, même s'il ne s'agissait pas d'un crime capital. Je veux dire, il n'a agressé personne.
Oui, c'est des mots au pire.
Il n'a violenté personne, il n'a tué personne, il a fait de la critique, peut-être très violente, certes, mais ce ne sont que des mots. Il n'a absolument appelé aucun truc haineux, quoi.
Oui, alors en plus, tu le rappelais, hein, le Nigeria, il y a quand même les attaques de Boko Haram qui sont très fréquentes. On est dans un contexte très particulier, donc trouver les mots plus violents, finalement, que les attaques de Boko Haram et tout ce qui se passe...
Bah, c'est mettre dos à dos, finalement, un libre penseur et des fascistes religieux.
C'est quand même assez terrible, parce qu'on peut comprendre même l'énervement qu'il ait pu avoir, ou même s'il a pu avoir des mots qui, effectivement, peuvent paraître très violent. Ouais, on est dans un certain contexte quand même. Enfin, je pense que quand vous êtes attaqué par des gens qui se réclament d'un islam radical et compagnie, et qui enlèvent des gamines et des gamins, et qui tuent des gens dans des villages, et qui font des exactions assez terribles, ouais, bah, parfois, peut-être vos mots, ils sont un peu plus durs que quand vous vivez dans une démocratie tranquille, libérale, démocratie libérale tranquille, avec un McDo à proximité, un KFC, quoi. Bah, non, mais je vais le dire comme ça, mais il faut toujours essayer de se recontextualiser, parce que moi je trouve qu'il y a des fois des gens, j'ai lu des gens qui disent oui mais t'as vu ce qu'il a écrit, ouais, enfin mets le contexte. C'est-à-dire, moi par exemple, je pense aujourd'hui il y a des Ukrainiens, ils doivent parler des Russes très mal, ça peut s'entendre, vous voyez, c'est juste dans le contexte ça se comprend, voilà.
Oui, et puis juste, je pense que en France avant 1905, même un peu après, je pense que on n'a pas toujours été tendre avec les religions.
Non, clairement. Hein.
C'est-à-dire que quand les religions ont un poids politique,
bah il faut taper
un pouvoir politique, on tape dessus en fait comme n'importe quel pouvoir en fait. Quoi. Faut pas l'oublier ça non plus.
Ouais,
quoi.
Clairement. Même, je voulais juste remettre ça en.
Et donc j'en arrive au mardi 5 avril en fait, lors de la reprise en fait, d'une audience en fait, et ben Moubarak en fait, sans en avoir parlé avec son avocat, a informé le tribunal qu'il changeait absolument sa position et il plaide coupable, ce qui fait qu'il a été immédiatement condamné à 24 ans de prison. Oui, vous avez bien entendu, 24 ans de prison pour du blasphème. Son avocat raconte encore à The Africa Report qu'il sentait que son client en fait en avait marre, et ça peut largement se comprendre, et qu'il n'en pouvait plus supporter en fait tout ce truc de procès, etc.
Et les brimades, hein, parce qu'on
bien sûr, parce qu'il ajoutait justement que en fait Moubarak et sa famille recevaient des menaces, et je pense reçoit encore des menaces constantes, et que ça en fait, que la position que Moubarak a prise, bah c'est juste pour que ça se finisse au plus vite, et c'est plus un signe de désespoir qu'autre chose, je pense.
Tout à fait.
Donc l'avocat, hein, il a exprimé son choc face à la longue peine et a déclaré, je le cite, hein, le tribunal par malveillance a imposé une peine ridicule. Selon le code pénal de l'État de Kano, la peine maximale pour l'un des chefs d'accusation est de 3 ans de prison, tandis que l'autre est de 2 ans. Ainsi, le maximum qu'il devait passer en prison est de 5 ans, et ayant déjà fait 2 ans de prison, il aurait dû être de 3 ans de plus, étant donné qu'il a plaidé coupable. En vertu des lignes directrices sur la détermination de la peine de l'État de Kano, il est impensable, d'imposer une peine de prison de 24 ans. Il n'a pas été accusé d'avoir enfreint le Cyber Crime Act, mais la loi de Kano. Notre argument était que ce tribunal n'avait pas compétence parce que l'infraction a eu lieu à Abuja. Et il ne vivait pas, Moubarak ne vivait pas à Kano. Donc l'avocat disait qu'il travaille sur un recours et que évidemment aussi l'entourage de Moubarak est absolument, l'entourage qui lui reste, c'est-à-dire sa compagne, sa femme, est absolument,
et peut-être les membres de son association,
est absolument dévasté, évidemment, son entourage militant, associatif et familial proche, quoi. Ceux qui l'ont pas enfermé parce qu'il est apostat. Il y a une autre réaction, c'est aussi Amnesty International au Nigeria, c'est la directrice Osei Ojigo qui a également condamné la longue peine, décrivant sa détention comme une violation des droits humains, et a déclaré « Amnesty International est préoccupée par le fait que Moubarak Bala ait été condamné à 24 ans d'emprisonnement pour atteinte à l'ordre public par le biais de ses publications sur Facebook en avril 2020. Personne ne devrait aller en prison uniquement pour avoir exercé pacifiquement ses droits à la liberté d'expression, de pensée et de croyance. Moubarak a été détenu pendant 2 ans en violation de la Constitution et des normes minimales d'un procès équitable et ses droits à la liberté personnelle. » Une autre réaction, c'est
C'est un haut défenseur des droits du Nigeria qui est un activiste aussi, hein, qui s'appelle Femi Falana, qui a déclaré que la condamnation porte atteinte à la liberté d'expression, en fait, au droit à la liberté d'expression. Hein. Et lui, en fait, il a conseillé à la défense de déposer un recours en ajoutant que le droit de Bala Moubarak de ne pas croire en Dieu est protégé par la Constitution.
Et c'est le paradoxe.
Par conséquent, sa condamnation est illégale car elle viole son droit fondamental à la liberté de conscience garanti par l'article 38 de la Constitution de 1999. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je pense que j'ai déjà été long.
C'est pour dire quand même que c'est ultra paradoxal parce que, comme tu disais, on a un pays qui a quand même, sur le continent africain, c'est un des pays qui a la constitution la plus libérale au sens liberté individuelle. Et elle a été, comme tu dis, revue en 99 et c'est pas pour rien. Moi, j'avais regardé, je savais que tu allais parler de ça et que du coup, je me suis réintéressé un peu au sujet. Et moi, j'ai été surpris, c'est que malgré cette constitution extrêmement protectrice, tout est foutu en l'air par le système fédéral dévoyé, parce que clairement il est dévoyé, et les petits arrangements politicards, comme tu disais, moi si tu me fais élire, je te laisserai avoir c'est tes ça. Tribunaux spéciaux, je te laisserai machin. Et en fait, en réalité, c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, on a des politiciens corrompus qui, pour garder le pouvoir à tout prix, ont vendu complètement des populations complètes, et notamment les femmes et les libres penseurs et les LGBT dans le pays.
Ouais. C'est ça. Donc, je terminerai juste en disant que je vais tâcher de mon côté de suivre les évolutions en espérant que Moubarak ne reste pas enfermé 24 ans juste pour avoir critiqué, je le redis quand même, un être imaginaire et qui n'a pas appelé à la haine ou au meurtre des croyants, en fait. Hein. C'est juste critiquer un truc qui n'existe pas de son point de vue. C'est quand même un comble d'être privé de 24 ans de liberté pour ça, quoi. Et si je vous ai parler là de Muhammad Mubarak Bala, il n'est de loin pas le seul à avoir subi ce traitement. Rien que pour le Nigeria, je pourrais citer Omar Farouk ou encore Yahya Sharif Aminu. Et je vous invite évidemment, vous aussi, amis auditeurs, auditrices, à continuer de vous tenir informés sur les libres penseurs, les libres penseuses du monde, hein, parce que faut pas rester figé sur un endroit ou sur une religion, n'est-ce pas? C'est pas le principe. Si peu défendu, hein, comme je le dis, ces libres penseurs et libres penseuses, si peu défendu et soutenu dans nos milieux militants, mais qui prennent dans la gueule le totalitarisme des religions, des lectures les plus réactionnaires de toutes les religions à travers le monde. Réactionnaires, hein, comme tu le disais, que les politiciens préfèrent protéger plutôt que les libres penseurs, et ce n'est pas le cas uniquement au Nigeria. Là aussi, hein, ne restons pas dans des fictions, quoi. C'est par-delà le globe. Hein.
On peut citer quand même des choses très simples. Hein. C'est aujourd'hui, les libres penseurs en Russie ne peuvent quasiment plus s'exprimer ou pas s'exprimer. C'est le cas aussi, y compris dans des démocraties libérales, parce qu'en ce moment, il y a un procès qui a lieu en Australie, au travers du droit au blasphème ou non, et qui est un procès un peu emblématique, parce que c'est la liberté d'expression, oui, mais alors du coup, quelle est la limite que veut y mettre l'État? Toujours le même principe, hein, quand il y a un État. De la même façon, il y a, je crois, c'est Amnesty qui dit qu'il y a plus de 4500 personnes qui sont enfermées dans le monde, juste parce qu'ils ont admis ne pas croire. Voilà, et c'est juste ça en fait le problème, c'est-à-dire que c'est un problème global et un problème important, et il faut jamais oublier qu'à partir du moment où on s'en prend aux libres penseurs, après on s'en prend à tout le monde. Hein. Je le dis souvent, alors première c'est les femmes en général, et puis après c'est les libres penseurs. Voilà.
C'est ça. Alors je vais continuer, hein, une autre info concernant un autre libre penseur, et là je vous propose d'aller en Arabie Saoudite. Vous en avez certainement entendu parler, hein, c'est Raif Badawi, blogueur, libre penseur comme je le disais, et militant des droits humains. Alors lui, vite fait, hein, il a été arrêté en 2012. En 2014, il a été condamné par le tribunal pénal de Jeddah à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et une amende de 235 000 euros environ, pour avoir créé un forum en ligne de débat public et aussi d'insultes à l'islam. En vrai, c'était plutôt pour avoir plaidé ouvertement pour la fin de l'influence de la religion sur la vie publique. C'est-à-dire une sorte de séparation, hein, de la vie publique politique.
La sécularisation.
La sécularisation, c'est ça. Le 9 janvier 2015, Raif Badawi recevait en public sur une place de Jeddah 50 coups de bâton, les premiers. Et en fait, les autres coups, ce qui devait aller jusqu'à 1000, hein, ils ont été reportés, alors initialement pour des raisons médicales, puis ensuite pour des raisons inconnues. Là aussi, hein, c'est... bon, tant mieux pour lui, hein, c'est pas...
En même temps, il a bénéficié, tant mieux que d'ailleurs, lui, d'un soutien international assez important.
On est bien d'accord.
Ce qui a mis l'Arabie Saoudite un petit peu devant le fait de dire, là, on sait ce qui se passe. Quoi.
C'est ça, mais ça n'empêche pas de continuer de leur vendre des armes et de leur acheter du pétrole.
Ça, oui, c'est bien.
Hein, c'est... Bon, voilà. Mais bonne nouvelle, hein, le 11 mars 2022, Enzaf Haidar, sa femme, a déclaré, Raif m'a appelé, il est libre, donc ce qui est évidemment une magnifique nouvelle. Ça a été également confirmé par un responsable de la sécurité saoudienne, bon, sous couvert de l'anonymat. Et en fait, depuis tout ça, en fait, Enzaf Haidar, sa compagne, en fait, elle est devenue citoyenne canadienne, elle vit au Québec, et en fait, avec ses trois enfants, et en fait, elle racontait en février avoir pu maintenir le contact avec son mari en lui parlant jusqu'à trois fois par semaine par téléphone. Et en fait, elle se bat depuis des années pour sa libération et pour qu'il puisse les rejoindre. Le Canada, de son côté, a ouvert la voie à l'exil hein, de Raif Badawi en le plaçant sur une liste prioritaire pour des raisons humanitaires. Sauf que, si il a été libéré de tôle, Amnesty International rappelle que Raif reste pour l'instant soumis à une interdiction de quitter le royaume pendant 10 ans, une fois sa peine purgée. Donc en fait, il prend quasi 20 ans de tôle, même si on est d'accord, la vie en tôle et la vie dehors, c'est...
Mais enfin, il prend 20 ans de privation de liberté.
C'est exactement ça. Alors ouais, c'est ce que je disais, hein. Il prendra plus de prison, il prendra plus de coups de bâton. Pour autant, il n'est toujours pas libre de ses mouvements et il n'a donc eu aucune clémence, hein, parce qu'en fait, il a fait ses 10 ans de prison, en fait. Hein. Il a purgé sa peine, quoi. Donc, seule chose qu'on peut faire, c'est lui souhaiter qu'il puisse se barrer de par quelque moyen que ce soit, qu'il puisse se barrer de cet état totalitaire et religieux qu'est l'Arabie Saoudite, grande amie de démocratie européenne et américaine. Ne l'oublions pas non plus.
Ouais, autre chose qu'on peut faire, parce que comme la France a des très bons rapports avec l'Arabie Saoudite, c'est, si vous avez envie de le faire, écrivez au Quai d'Orsay et vous demandez au Quai d'Orsay, vous leur dites, mais moi je comprends pas comment ça se fait que, voilà, on peut prendre, j'ai perdu Raif Badawi, et ou même d'autres personnes hein, qui sont bloquées aujourd'hui en Arabie Saoudite, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas partir? Vous voyez, en fait, vous demandez au Quai d'Orsay, et puis quand même, on ne vend pas des armes à des pays qui empêcheraient les gens de bouger. Alors ça paraît bête, hein, comme ça, quand je le dis, mais en fait, n'oubliez pas que les politiques sont élus. Hein.
Oui, et puis aussi, voilà, saisissez-vous de ce truc, diffusez de l'information autour de vous, parlez-en.
Ils n'aiment pas quand ça commence à faire du bruit.
Ah non, ça c'est sûr.
Donc voilà, moi je pense que c'est bon truc, tiens, de poser la question.
Et voilà, et je terminerai rapidement par une autre info liée là encore aux religieux, hein, c'était leur fête ce soir. Ah bah oui, c'est logique.
Et c'est pas qui.
Mais oui. Non mais je plaisante. Hein.
Bah oui, t'as pas vu les lapins qui chient des œufs.
Alors, je vous avais parlé dans la causerie 427 du 27 février 2022 d'un ghetto catho, vous savez, enfin chrétien, pardon, qui devait voir le jour en Indre-et-Loire, à l'île Bouchard plus précisément. Et en fait, dans un rapport rendu le 25 février dernier par le SDIS, c'est-à-dire le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, en fait, il est écrit que les moyens de lutte contre l'incendie sont insuffisants dans le secteur pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Oh. Et le mardi et la mairie le 29 mars invoque donc, en s'appuyant sur le rapport du SDIS, invoque une raison de sécurité publique pour justifier son refus d'accorder le permis de construire.
Comme ça a dû la
rentrer. Alléluia. Ah non, c'est pas ça qu'on dit. C'est Yalla. Non plus. Donc le projet a donc été jugé en application de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme de nature à porter atteinte à la sécurité publique et ne pouvant de ce fait pas être réalisé. Le 30 mars, le promoteur Monasfer, dont je vous avais parlé, hein, annonce à France Bleu Touraine mettre un terme à son projet de lotissement à l'île Bouchard. C'était le tout premier projet hein, de ce promoteur spécialisé dans la construction de biens immobiliers à proximité de lieux spirituels chrétiens. Et la société annonce qu'elle ne contestera pas la décision de la mairie de l'île Bouchard de ne pas accorder le permis de construire. Alors, au sein du collectif d'opposition hein, qui s'est monté à l'île Bouchard, donc d'opposition au projet, on se dit, je cite, « rassuré mais toujours vigilant, car on pointe du doigt un élément technique, mais le problème de fond est toujours là ». Et une des figures de ce mouvement d'opposition, en fait, fait référence en fait, à la mainmise de la communauté de l'Emmanuel sur la commune de l'île Bouchard. Et à côté de ça, les mêmes monasphères, enfin la même entreprise là, a déclaré dans Famille Chrétienne, oui, il faut toujours aller lire ces gens-là, c'est toujours important quand vous êtes prêt à parler de gens qui sont proches d'eux.
Et à vomir aussi.
Oui, mais ça c'est... Non, mais c'est parce que souvent on dit, même ici, enfin, et dans d'autres trucs, oui, c'est oui, que pour connaître le...
Ah, faut lire ton ennemi. Hein,
c'est ça, et puis gens. Pour lire le capitalisme, lisez des médias capitalistes bien sûr, pour bien saisir, etc., leur approche. Et donc, dans Famille Chrétienne, un monastère a confirmé ne pas souhaiter donc faire de recours à ce stade. Et je cite, l'un des fondateurs, hein, Damien Thomas, a dit « Cela ne veut pourtant pas dire que le projet ne se fera pas sous cette forme ou sous une autre. » Et pour l'instant, hein, ce dernier retient le positif de cette aventure, qui est, je le cite encore, « Nous ne sommes pas du tout amers. Plus de 3000 familles se sont montrées intéressées. L'engouement autour de ce projet confirme qu'il y a une attente de fond et nous comptons bien y répondre. » Il s'agit donc là, pour moi, de ne pas crier victoire trop vite.
Ah bah clairement, oui.
Hein, que je rejoins vraiment là, les opposants au projet de Libusha, parce que on peut reconnaître un truc à Monasphère, mais ce qui est propre à toutes les religions et souvent à ceux qui sont autour des religions, hein,
ils ont le temps.
À savoir, c'est exactement ça, à savoir voir sur le long terme, savoir prendre le temps sans jamais oublier leurs objectifs. Et je trouve que là, c'est une très belle démonstration parce que je suis sûr qu'on en réentendra parler très prochainement de Monasphère et de ses ghettos chrétiens. Bah, donc voilà, c'était juste ces petites infos que je voulais transférer, n'importe quoi, que je voulais donner ce soir parce que ça faisait longtemps et pourtant ça continue aussi tout ça quoi.
Mais je comprends le défenseur du village là, parce que vraiment il y a un truc maintenant que peut faire avec la puissance financière qu'a Monasphère et donc les 3000 familles hein, qui sont derrière, c'est ça moi qui m'a c'est racheter les biens. C'est-à-dire qu'au lieu de créer quelque chose, c'est racheter les baraques, racheter dès que quelqu'un décède, se foncer et racheter à des prix défiant toute concurrence. Parce que quand vous avez la force financière, et puis finalement transformer tout le village en monastère.
Ah bah de toute façon, quand il te dit sous cette forme ou une autre, voilà. ça veut dire qu'on est prêt à revoir nos plans. Mais c'est pas ça. Le projet sur le long terme.
Ça s'est déjà vu en fait, ce système-là, en fait, de racheter des maisons pour créer finalement quelque chose de. Et ça s'est vu pas que pour des religieux, mais en particulier pour des religieux.
Donc voilà.
Donc c'est à craindre, ouais.
C'est ça. Donc voilà, c'était juste quelques infos des mécréants, des mécroyants et de ceux à l'opposé qui veulent étendre leur pouvoir religieux et leur mainmise sur nos vies. Eh ben, ouais, pas plus longtemps, pardon, il est super tard. On passe à la musique.
Be paralyzed. No one will come to save you. I need your actions and what you do. What I impose your morality to the entire society. Fighting against the people's liberty. You don't want the woman to be free. There's no law, no prophet, no savior. No sacred, no holy. What you do, you say, and you still talking about respect. You only swear by prohibition, pretending it's liberation. Do whatever you want with your God, you punish yourself with the rod. But please keep it by you at home. Let us live a life. No Ali, nobody, 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 nobody stands over we. There's no law, no prophet, no savior, no sacred, no Ali. Nobody, 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 nobody stands over. Nobody, nobody, nobody stand over.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canut et de La Causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter un extrait du premier album de Daman, et le titre c'est Nobody. C'est qu'il n'y a personne au-dessus de nous. Il n'y a pas de Seigneur, pas de Dieu, pas de prophète. Il n'y a que nous. Voilà.
C'est déjà pas mal.
Et je trouve que justement, en plus, j'aime beaucoup cette idée que... alors Daman, c'est pas le seul, hein, mais... qu'on puisse faire du reggae qui ne soit pas adoubé par Jah, par Dieu, et qu'on puisse aussi être matérialiste dans le reggae, ce qui manque quand même très souvent, très 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 souvent. Voilà, et ben on passe au bref vite fait avant de se quitter. Donc quelques rendez-vous, le premier c'est mercredi le 20 avril, c'est à l'atelier des Canulars que ça se passe, c'est dans le 7e arrondissement. C'est un échange avec l'auteur François Bégodeau qui a sorti un livre, je crois, qui s'appelle comme ça, Comment s'occuper un dimanche d'élection.
Oui, c'est le titre du livre.
Alors vite fait, hein, la 5e République a imposé dans bien trop d'esprits l'idée que les élections présidentielles sont la quintessence de la vie politique française. Pour beaucoup, voter est un acte politique de toute importance. Et l'abstentionnisme, une irresponsabilité totale en ce temps de droitisation de la sphère politique. François Bégodeau défend le point de vue opposé. Voter, pour lui, est parmi les actes politiques les plus insignifiants. C'est dans les mouvements sociaux et dans l'auto-organisation qu'existe la politique. C'est par eux, et non par le vote, que nous pouvons changer les choses. Et c'est donc, pardon, c'est à l'atelier des Canulars, à partir, alors ça ouvre les portes à 18h30 et le débat commence à 20h, c'est donc mercredi 20 avril. Et j'en profite vite fait pour vous inviter aussi, qui s'inscrit dans cette démarche-là, c'est l'émission Nous n'irons pas voter, qui a fait le groupe Graines d'Anard sur l'antenne de Radio Canu, que vous pouvez retrouver aussi sur les internets, et qui finalement voilà, rejoint aussi ce point de vue qui n'est pas que partagé par Bégodeau. Le deuxième rendez-vous, c'est la marche pour la fierté lesbienne contre l'extrême droite, c'est samedi 23 avril à 15h, place Louis Pradel dans le premier arrondissement.
Et vous l'aurez compris, c'est une marche lesbienne.
Oui.
Oui.
Ah bah oui, la marche pour les fiertés lesbiennes, quoi.
Oui, oui, voilà.
Mais tout le monde peut y aller.
Non, parce qu'il y a des gens qui étaient surpris que ce jour-là, ils ont découvert qu'il y avait une journée de la fierté lesbienne.
Ah.
Voilà, c'était pour ça que je dis, bah oui, donc je souriais en me disant qu'il y a des gens qui découvrent des journées qui existent depuis des années, et qu'encore une fois, on voit que quand c'est des femmes, c'est invisibilisé. C'est marrant.
C'est marrant, ça. Hein.
Voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette réaction. D'accord. C'était pas du tout parce que c'était une marche lesbienne. Donc du coup, moi je voulais aussi vous dire que le 24 avril, dimanche à 20h45, oui, alors après l'annonce du résultat des élections, vous l'aurez compris, c'est place Colbert, il y a un appel pour ceux et celles qui ont un peu trop la gueule de bois après ces élections, et façon de parler, et qui aimeraient se retrouver avec des gens qui ne sont ni Le Pen ni Macron, et pour un petit peu se retrouver entre personnes un peu radicales, on va dire, au sens premier du mot. Et donc c'est un appel pour un séparatisme radical. J'adore cette notion là. Donc c'est 20h45, place Colbert, dimanche 24 avril. Voilà.
Et nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 24 avril justement, de 22h à 23h à l'antenne de Radio Canu.
Mais du coup, si t'es place Colbert, tu prends un truc pour écouter La Causerie, quoi. Enfin, je veux dire,
ouais.
Nous rate pas, quand même.
Je suis pas sûr qu'il vaut mieux que t'aies les oreilles bien libres et pour que tu puisses entendre.
Tu iras voir le podcast.
Pour que tu puisses entendre les flics qui arrivent. On va se quitter avec un titre de musique. Ah, c'est moi qui l'annonce. Ok.
Il est choisi par Clara et c'est toi qui l'annonce.
Oui, parce qu'elle m'a dit, c'est pas ma langue, c'est plutôt la tienne.
Voilà.
Alors, on se quitte avec un titre du groupe Klezy. Klezy. K-L-E-2-Z-Y.
Point d'exclamation.
Avec le titre Gute Nacht Sirba. Sirba.
Ouais.
Voilà, ça doit être du yiddish,
ouais.
Je pense.
Et on les a vus sur scène et ça dépote.
Effectivement. Donc voilà, on vous laisse avec ça et puis on vous souhaite une bonne nuit. Et aussi plein de courage pour la semaine à venir, même si pour certains et certaines, ça sent les vacances. Mais pas pour tout le monde et ça, on l'oublie pas. À dimanche prochain, 22-23, à l'antenne de Radio Canu. Des bisous.
Bisous.
Ciao.
Salut.
Ciao.